Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit le Christ. Eh bien, précisément, c'est ce que nous vivons ce matin encore, en ayant de plus la joie de pouvoir accueillir Martine Lecoq, qui prêchera tout à l'heure, et d'accueillir aussi la famille Belon, qui a demandé à ce que leur fille reçoive le signe de la grâce que constitue le baptême. Oui, le Seigneur est présent au milieu de nous aujourd'hui encore, comme il veut être présent chaque jour de notre existence. Et pour vivre cette présence commune, je vous invite à vous lever et à chanter le répond indiqué sur votre livret liturgique. Seigneur, que tout s'unisse. Éternel, tu es vie. Tu nous donnes et nous conserves la vie, c'est pourquoi nous te louons. Éternel, tu es lumière. Tu nous éclaires. Tu nous réjouis par ta lumière. Voilà pourquoi nous te louons. Éternel, tu es joie. Tu instilles en nous la capacité de partager la joie. Nous te louons. Éternel, tu es espérance. Tu traces et prépares des sentiers que nous pouvons emprunter. Nous te louons. Éternel, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour. Oh oui, voilà pourquoi nous te louons de tout notre être. Amen. Poursuivons notre louange sur un air joyeux. Le psaume 47 nous permet cela. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 47. Vous avez été appelés à être libres, nous rappelle l'apôtre Paul. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour, car toute loi se résume finalement en ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, nous qui faisons si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire, et nous qui ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Peut-être est-ce parce que nous voulons trop te plaire et nous plaire à la fois. Alors pardonne-nous et fais-nous ressentir ton amour, afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à aimer notre prochain. Accorde-nous de désirer et de recevoir pleinement ton pardon pour que notre obéissance soit plus entière et plus joyeuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous apprennent les textes bibliques ? Eh bien, en utilisant l'image du Père, les textes bibliques nous apprennent que Dieu pose sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de Père aimant qui accueille notre repentance, à la manière de ce Père prodigue dont on entend parler dans une parabole de l'Évangile selon Luc. Ce faisant, nous apprenons que Dieu nous invite à recevoir et à vivre en lui tous les jours son pardon et son amour inconditionnel. Alors chantons-lui notre reconnaissance. Le baptême est peut-être une manière d'exprimer le bain de vie dans lequel nous sommes immergés. Et c'est la raison pour laquelle en entendant ces mots que les parents d'Elvire ont choisis, nous entendons avec toi, Elvire, quelle est justement la nature de ce bain dans lequel tu es appelée à t'épanouir. Voici ces mots qui seront notre profession de foi ce matin. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison, les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie par-delà la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place, à l'exception des parents d'Elvire, de son parrain et de sa marraine, que j'invite à s'approcher de ce baptistère. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus ici même. À travers vous, Guillaume et Camille, ce sont déjà deux trajectoires qui se croisent, deux chairs qui s'unissent pour former une troisième chair. Il n'est pas dans nos usages de faire une théologie des œuvres, mais je sais que certains seront peut-être émus de savoir que votre jeunesse fut marseillaise au temple de Grignan. Et plus encore, évidemment, vous pensez bien que votre union fut célébrée à Marcillargues. Les Gardois apprécieront, j'imagine. Mais cela ne vous donne pas de titre de noblesse supérieur à cette grâce qui nous précède, au fait que nous soyons portés par un amour premier. Et c'est bien ce que nous entendons attester pour Elvire, votre fille. Rappelons-nous cette institution du baptême. C'est Jésus qui, au moment de quitter ses disciples, s'adresse à eux en leur disant « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Et cela s'accompagne d'une promesse, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines. Et c'est en ce sens que nous sommes portés non seulement par un amour, mais aussi par une tradition, par une cohorte de témoins qui nous précèdent et qui nous donne à entendre ce que signifie la grâce, l'amour, la justice. Une vie bonne, pleine, épanouie. Par le baptême, Dieu a manifesté le salut en Jésus-Christ, et cela est vrai encore aujourd'hui, et notamment pour toi, Elvire. Dieu t'a aimé le premier. Cela signifie que pour toi aussi, cette parole qui retentit au moment du baptême racontée au sujet de Jésus est vraie. Tu es mon enfant, bien-aimé. Ton nom est donné gratuitement, sans condition, indépendamment des mérites que tes parents ont donc pu acquérir. Et cela est fait dans l'espérance qu'un jour, Elvire, tu pourras répondre à cette parole et découvrir cette présence divine auprès de toi. Pour cela, nous t'accompagnerons sur ton chemin personnel. Avec toi, nous apprendrons à faire jaillir, grâce à Dieu, une vie nouvelle de foi, de chaleur, de tendresse, et à bâtir un monde de justice, de paix et d'espérance. Alors, en demandant qu'elle vire reçoive le baptême, vous avez exprimé qu'elle reçoive le signe de cet amour absolu, inconditionnel. Je vous invite donc maintenant à vous approcher de ce baptistère. Mais vous avez le droit de vous approcher d'elle, de l'entourer, même si c'est la marraine qui la porte. Elvire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elvire, Dieu te bénit et te garde. Il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne. Il t'éclaire de sa lumière et de son amour. Ne crains pas, dit le Seigneur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu fais partie de ma famille. Frères et sœurs, voici Elvire. Elle est ici chez elle. Elle est l'une des nôtres, sachant que cette communauté à laquelle elle appartient n'est pas limitée à cette communauté de l'oratoire du Louvre, mais à cette grande famille universelle. Vous êtes sa famille spirituelle. Cela signifie qu'en toutes circonstances, parents, parrains, marraines, et Elvire bien sûr, pourront compter sur votre amitié, sur votre prière. Voilà, et ce sera notre joie un jour que tu confesses cette foi en l'Éternel, cette foi que nous essayons de balbutier et de mieux comprendre ici même. Beau programme. Je vous la confie à nouveau. Alors Elvire, pour t'aider à cheminer justement sur ta voie personnelle, tes parents vont maintenant dire quelques mots qui seront pour toi comme un capital dans lequel tu pourras puiser pour les nombreuses années à venir.
Elvire, nous avons souhaité que tu sois baptisée pour te donner tous les atouts pour devenir une femme heureuse, indépendante, curieuse et équilibrée.
Bienvenue Elvire dans cette grande communauté chrétienne, prête à t'accompagner dans ta relation avec Dieu, dans les moments les plus tristes comme les plus heureux tout au long de ta vie.
Et je vais laisser aux parrains le soin de rassembler toutes nos intentions pour toi, Elvire, dans la prière.
Prions Dieu. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous n'avons rien à donner. Devant un petit enfant qui attend tout de nous, nous mesurons notre pauvreté. Ô toi qui nous accordes le pain spirituel dont nous avons besoin, renouvelle en nous chaque jour la force de ton esprit afin que nous puissions transmettre à nos enfants tout ce que tu veux leur assurer par nous. Au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement.
Voilà, je vous invite à regagner votre place et peut-être avez-vous été sensible aux manifestations positives que Elvire nous a adressées. Voilà qui est un heureux présage. Et j'invite maintenant Martine Lecoq à rejoindre notre chaire.
Nous lisons les textes bibliques du jour, d'abord l'Épître dans l'Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 5, les versets 7 à 9. Au jour de sa chair, le Christ a offert, à grands cris et dans les larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Nous lisons maintenant l'Évangile, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approchés de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, ils lui demandaient « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant, je suis troublé. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Ici se termine l'Évangile. Nous nous levons pour chanter le cantique 204. 1 et 2, enfin en entier en fait, les strophes 1 et 2.
Et sans
Prions. Les paroles qui nous viennent de la Bible, c'est en nous-mêmes que nous les entendons. C'est en nous-mêmes qu'elles résonnent. Elles ont traversé les siècles et d'âge en âge. Nous les comprenons différemment, nous les transformons, nous les renouvelons selon le désir de notre cœur. Et malgré cela, elles demeurent fidèles à elles-mêmes. Seigneur, aide-nous à recevoir tes mots comme s'ils venaient d'être écrits tout exprès pour nous à la minute présente. Fais en sorte qu'ils ne restent pas à l'intérieur d'un livre qu'on referme après l'avoir ouvert. Fais en sorte qu'ils ne restent pas lettres mortes, qu'ils vivent à notre rythme encore longtemps après avoir été prononcés. Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venue jusqu'à cette heure. Nous sommes aujourd'hui à une sorte de point zéro de notre calendrier ecclésiastique, en cours de carême, mais dans un creux, un trou. On entend ici une dernière respiration, même si elle est un peu rauque, un peu caverneuse, un dernier souffle avant l'ascension ininterrompue du Christ vers sa mort. L'escalade sera vertigineuse, on le sait. Une fois commencée, elle ne nous lâchera plus, qu'elle ne soit parvenue à son terme, non sans nous avoir bousculé de toutes parts, de la fausse réconciliation des rameaux dimanche prochain à la mort sans concession, puis au triomphe sans concession non plus de la vie. Dans ce dernier intervalle de réflexion libre, il semble que le Christ ait eu l'illusion toute humaine qu'il pouvait encore choisir, éloigner la coupe ou la boire. Dans l'évangile de Jean, Jésus est extrême en ses deux sens. Son sens divin, il sait tout à l'avance. Son sens humain, il est homme et même le plus homme des hommes. C'est le seul évangile où on le voit pleurer. le seul où on arrive presque à l'imaginer physiquement, à se le représenter dans sa forme corporelle. Si on dit souvent de l'évangile de Jean qu'il est l'évangile spirituel, cela est vrai dans la mesure où il est également le plus charnel. Il n'est donc pas étonnant que dans notre texte, deux fragments de phrases qui semblent à une distance incommensurable l'un de l'autre soient subitement rapprochés, jouxtés. « Sauve-moi de cette heure », puis juste après, « C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure ». La vulnérabilité du Christ éclate. Mais au lieu de lui ôter sa force, elle l'investit dès la seconde suivante d'une force supplémentaire. Que vaudrait la force sans la faiblesse qui la précède? Elle s'écroulerait au premier choc. Sans la répulsion de la mort, que vaudrait le courage devant elle? Peut-on parler de courage à propos de ces gens qui meurent si facilement parce qu'ils croient tout de suite rejoindre le ciel, le paradis ou le nirvana? On sait aussi d'ailleurs qu'ils tuent facilement. Si Jésus n'était qu'obéissant, comme un bon fils bien élevé, s'il se jetait tout de suite sous les roues, que vaudrait pareil sacrifice ? Pas grand-chose. Cela ne vaudrait guère mieux sans doute qu'un suicide de fanatique ou de disciple de secte. Cela réduirait le Père à une mécanique céleste et le Fils à une victime manipulée, un esclave, voire un futur bourreau. Non. Jésus ressemble à cet enfant prodigue dont il relate les aléas dans une célèbre parabole. Il nous dit qu'il faut s'égarer pour se trouver, désobéir pour obéir librement. C'est cela, être obéissant jusqu'à la mort. C'est d'abord se payer le luxe d'être un fils mal élevé, un mauvais fils. Sans cela, il ne peut y en avoir de bon. Il ne peut y en avoir de fidèle. Un bouddhiste disait « Celui qui pense être un bon père n'est pas un bon père. Celui qui pense être un bon fils n'est pas un bon fils. » C'est très intéressant. Imaginons une classe comme nous en avons connue à l'école étant enfant, avec ses meilleurs élèves, ses moyens, ses mauvais élèves. Cette classe ressemble un peu déjà à l'image que nous nous faisons de la société quand nous sommes en âge d'y entrer professionnellement. Arbitrairement, nous y transposons les mêmes références. Nous sommes tous marqués par ce modèle type. La raison est simple, nous savons que les meilleurs sont récompensés et les mauvais toujours punis, maltraités. Comme nous ne sommes pas masochistes, nous avons envie de faire partie des meilleurs. C'est tout naturel. Nous voulons tous faire partie du peloton de tête. Et dans notre approche du christianisme, nous avons tendance à reproduire la même chose. Pourtant, quand nous envisageons la tendresse du Christ à l'égard des démunis, la délicatesse de son amour, et également, j'ajouterais, son amour subversif, qui croyons-nous qu'il va préférer? Tout de suite, il va se tourner vers le mauvais élève, vers le pire. Tout de suite, il va l'aimer. Ainsi, entraînons-nous à passer de temps à autre dans la peau du mauvais élève. Du mauvais élève qui n'est pas paresseux, bien sûr, qui fait tout son possible. Même si nous avons été autrefois l'un des meilleurs, ou cru l'être, sans craindre la souffrance qui est le lot du maladroit. car la réussite du mauvais élève, même si elle exige plus de patience, plus de temps, est un triomphe absolu quand elle survient, un triomphe selon la foi. Même s'il ne réussit pas d'ailleurs, ses essais suffisent. Ils sont plus précieux que la facilité intellectuelle du brillant qui décroche diplôme sur diplôme. Si nous n'avons pas de difficultés pour apprendre, qu'apprendrons-nous qui soit précieux, qui soit poinçonné comme de l'or véritable? Ceux qui sont en proie aux plus grands obstacles trouveront dans leur succès de plus amples satisfactions et aussi, surtout, une plus profonde compréhension de l'univers dans lequel ils vivent. Ils verront les liens entre les éléments apparemment contradictoires qui le composent. Être chrétien sera pour eux bien davantage signifiant. Jésus, dans notre texte, est en proie à une grande difficulté. Il est redevenu un enfant qui ne veut pas avancer parce que devant, c'est terrible, c'est inhumain. Il est redevenu l'ânon qu'il enfourchera la semaine prochaine, le dimanche des rameaux, quand il courra vers son destin. Un enfant, une bête qui s'obstine, qu'on ne peut faire bouger de force. Comment n'en serait-il pas ainsi, connaissant d'avance ce qui va lui arriver? Mais quand il se décide, il ne recule plus. Il ne va pas à la mort comme un mourant, mais comme un très vivant, un éternellement vivant. Est-ce à dire que l'horreur de la mort et du supplice qui y mène est évacuée de son cœur? Sans doute non. Elle se poursuit en filigrane, dans l'acceptation, même s'il ne la conteste plus. Le dialogue conflictuel interne est sans doute plus long que les paroles prononcées. Il se poursuit dans le silence. Dialogue entre le Fils de l'homme, ainsi le Christ se nomme-t-il lui-même quand il englobe en lui les plaintes de l'humanité entière qui deviennent sa plainte, et le Fils de Dieu, quand l'intimité du Fils et du Père se referme sur son secret. Fils de l'homme, à chaque fois que Jésus se trouve parmi les hommes, au milieu d'eux, qu'il se laisse toucher, prendre par une émotion non préméditée. Fils de Dieu, lorsqu'il précède les événements, en connaît l'échelonnage irrévocable et s'y soumet. Fils de l'homme, fils de Dieu. On imagine jusqu'à la croix une sorte d'interaction perpétuelle et épuisante entre ces deux natures. Une friction, un tiraillement disharmonique qui, s'il devait durer plus longtemps, serait invivable. En nous aussi demeure une trace de cette friction, de ce tiraillement. Une trace de cette chose invivable. La vie est souffrance. Et parce qu'elle est souffrance, elle est aussi joie, bonheur. Non parce que nous aimons souffrir, ni parce que nous brandissons nos souffrances comme des drapeaux, mais simplement parce que la joie est plus grande que la souffrance, qu'elle la traverse. Nous devons pouvoir être heureux, non malgré nos souffrances, encore moins à cause d'elles, mais avec elles. Voilà l'acceptation à laquelle nous sommes confrontés quand nous sommes redevenus de petits enfants maladroits, des ânons obstinés. Ce n'est pas gagné d'avance. Beethoven mettra des années et des années, lui le sourd, pour écrire sa musique de la joie dans son ultime symphonie. Et cette joie-là vient de loin. Elle n'est pas qu'un état d'âme. elle n'est pas non plus seulement intime. Sinon, nous n'en aurions pas fait notre hymne européen. C'est une joie d'autant plus intérieure qu'elle se tourne vers l'extérieur. Une joie qu'on ne peut pas perdre sans se perdre, ou perdre le fil qui relie aux autres hommes. Une joie qui ne craint rien sans méconnaître les dangers, sans les minimiser. Une joie de communication, au sens fort du terme, parce que dénuée de peur. Sur le chemin de notre vie, un nombre incalculable de coupes se propose à nous, que nous répugnons à boire et que nous buvons. Nous avons moins conscience que Jésus du sursaut de révolte qui nous soulève contre elle. L'implication est moins dramatique. Nous ne serons ni crucifiés, ni couronnés d'épines. Mais il s'agit quand même de petits drames personnels. Sans arrêt, je suis obligée de faire ce que je ne veux pas ou crois ne pas vouloir. Ce qui me cause un effort apparemment contre nature. En effet, même dans les réalisations qui nous procurent une satisfaction, même dans nos réalisations les plus positives et radieuses, les plus créatrices, il y a toujours quelque part en nous un enfant rebelle qui dit non d'abord, qui dit « je veux être libre, je veux rêver ». Le rêve, c'est la liberté. Dans mon rêve, tout est parfait, tout est consolant. Rien ne me brusque, rien ne me contrarie. Cela demande un véritable héroïsme quotidien, de soulever le poids de notre inertie mélancolique avant de démarcher, d'entreprendre, agir, parler, rencontrer. Si nous nous écoutions, nous rêverions notre vie au lieu de la vivre. C'est une tentation très répandue et l'âge n'arrange pas les choses. Une tentation diabolique pourtant, car elle sépare le rêve de la réalité, elle incite à les comparer, et comment ne pas préférer ce qui est parfait à ce qui ne l'est pas? Il m'est extrêmement dur de préférer la réalité à mon rêve, et pourtant c'est ce à quoi je dois arriver. Là est mon épanouissement, mon rayonnement, ma survie. Je dois trouver la réalité plus belle que mon rêve. Oui, la réalité avec ses manquements, ses luttes, son désespoir, mais aussi sa grandeur, ses irruptions de lumière. La lumière de la réalité n'abandonne personne. Elle est comme le soleil qui brille pour tous, alors que mes rêves ne brillent que pour moi. D'ailleurs, si j'aime la réalité, mes rêves en feront partie, ils la peupleront. Il me faut aimer le rêve réel. Amen.
Merci Aurélien, et nous chantons maintenant le cantique numéro 308 dans le petit recueil Louanges et prières. Confie à Dieu ta route, pour prolonger la prédication de Martine, donc les strophes 1, 3 et 4 du cantique 308. Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord pour remercier très chaleureusement Martine Lecoq. Merci pour ce profond encouragement à vivre notre vie avec quelque chose vraiment de puiser dans l'Évangile et dans la vie pour nous ressusciter un peu maintenant. Donc vraiment merci, j'ai été très sensible à cette prédication. Alors à la sortie de ce culte, il y aura les éclaireuses qui ont préparé des gâteaux, de bons gâteaux. Je crois. Donc elles vont nous en parler maintenant. Voilà.
Donc bonjour à tous. En fait, nous sommes les aînés de l'oratoire. Et donc l'été 2016, on va partir pour un projet humanitaire. Donc on est encore en train de chercher l'association, mais on a quelques pistes. Donc si vous avez quelques pistes, vous pouvez toujours, pour nous aider, ce serait toujours bienvenu. Et donc nous sommes constitués de 8 personnes. Et à la sortie du culte, nous vendons des gâteaux pour financer ce projet. Et donc si vous avez quelques informations, on est là, on peut vous répondre.
Ok, merci beaucoup. Et puis à la sortie, donc de ce côté-là, il y a des gâteaux peut-être, et puis de l'autre côté, derrière la grande porte, dans la grande sacristie, eh bien, il y a un temps d'accueil. Donc c'est une occasion pour discuter un peu entre nous de la prédication, de faire connaissance, d'accueillir d'autres, ou bien d'être accueilli donc, pour ce temps de partage. Alors cet après-midi à 16h, il y a le concert annuel de la musique territoriale de l'Armée du Salut. Alors voyez, nous sommes libéral au sens, pas au sens où on aurait forcément une théologie tout à fait échevelée. On accueille dans cette façon ouverte eh bien, aussi bien l'Armée du Salut que d'autres chrétiens. Et eux, ils vont avoir à cœur, à travers la musique, mais aussi à travers des paroles, eh bien, de témoigner de ce qu'ils ont à cœur cet après-midi, ici même. Demain soir, à 19h30, il y a le groupe de grec biblique des progressants. Mardi soir, il y a le grec biblique débutant, l'autre groupe. Et puis mardi, à 18h, il y a le chœur pour enfants. Donc il y a encore de la place, largement, pour des jeunes, donc de 8 à 16 ans, pour entrer dans ce chœur qui est donc en train de débuter, d'avancer. Mardi soir, on a l'initiation à la théologie aussi, donc c'est un cycle de 6 rencontres, c'est la troisième. On peut toujours prendre le train en marche ou bien attendre le prochain cycle. Il y en a un au printemps, un à l'automne. Sinon, jeudi, il y a le chœur de l'oratoire pour les adultes à 19h30. Vendredi soir, ici même, il y a une soirée un peu exceptionnelle avec la présentation du dictionnaire biographique des protestants français. Donc avec Patrick Cabanel et André Encrevé, qui préparent en fait une gigantesque somme sur les protestants depuis la Révolution, je crois, jusqu'à notre époque. Et ça permet de découvrir le protestantisme à une époque, mais aussi des tranches de vie, finalement, de personnes remises dans l'idée de l'époque, et c'est, je crois, assez intéressant. Donc, ils viendront vendredi soir présenter ici leur premier tome de cette œuvre, et puis aussi, c'est un temps d'échange avec eux. Alors, dimanche, nous avons ici le culte, un culte d'une heure, pour que ça soit, qu'on laisse place à la suite à nos assemblées générales, donc de l'Église, et de l'entraide, effectivement, s'il y a une boîte avec des chaises de première classe, ben ce sont nos délégués, en fait, et ça remplace la cathèdre de l'évêque dans une cathédrale catholique. C'est donc les hommes, les femmes de ces conseils ben, qui sont en charge du gouvernement de l'Église, aussi bien pour l'Église que pour l'entraide. Et donc, ce dimanche prochain, donc après le culte, nous aurons un temps de débat en assemblée générale autour de ce qui a été fait dans l'année et des projets de l'année prochaine. Donc pour nous, c'est un moment important de la vie démocratique, si je puis dire, ou en tout cas participative, de notre Église. Alors ensuite, comme le disait Martine, on entre vraiment dans la semaine de Pâques, après dimanche prochain, et donc il y a le culte du jeudi saint qui est au foyer de l'âme, et puis ensuite vendredi soir, le culte ici, le vendredi saint. Samedi, un temps de chant de nos cantiques préférés, le samedi saint, et puis dimanche de Pâques, bien sûr, le culte de Pâques, donc avec James et moi-même. Donc maintenant, c'est le moment de l'offrande, et c'est vrai que c'est une façon eh bien, de permettre à l'Église de porter son témoignage dans le monde et d'accueillir les familles, d'accompagner les familles, donc en notre nom à tous. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, sois béni pour ta parole de vie, parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs comme un souffle de création, de libération, de nouveauté, et qu'elle y purifie la source de notre vie. Que ton puissant amour l'emporte ainsi sur notre faiblesse, nos hésitations, nos manques de cœur, nos étroitesses. Que ton Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie profondément, et qu'ainsi nous puissions aimer en parole et en acte notre prochain comme nous le pouvons, celui que tu nous confies pour que nous l'aidions, et que peut-être nous puissions recevoir de lui aussi un coup de pouce qui nous porte en avant. Et tous ensemble, dans le secret de nos cœurs, eh bien, nous réunissons toutes nos prières dans cette prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, Père, la puissance, le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction que Dieu nous adresse. Nous la recevons en particulier, au singulier, comme Moïse nous le propose de le dire à nos frères et sœurs. L'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, que tout être te bénisse, ô Dieu de paix.